L'Indirect et votre quotidien La Loupe de 8h à 9h sur la première.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur la première. Ça y est, c'est parti, on y va pour votre rendez-vous quotidien. L'Indirect, vous le savez, votre émission de proximité, sorte de grande table ronde, un forum que la première met à votre disposition tous les jours pour que vous puissiez venir vous asseoir avec nous virtuellement et poser vos questions grâce à notre standard, le 258-258. Après 4 semaines de confinement, les transports ont tous ou presque repris comme d'habitude. L'occasion pour nous de faire un focus sur la société SMTI, la société mixte des transports interurbains, avec son directeur Olivier Tupaco qui est avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Évidemment, avec vous, on va revenir un petit peu sur... On va se poser la question, qu'est-ce que le réseau rail? Quelles sont les innovations récentes? Comment se passe cette reprise? Est-ce que tout le monde a pu rentrer chez lui grâce à votre réseau dès ce week-end? On va aussi se poser la question de voir un petit peu comment s'est passée la journée de samedi avec les intempéries. Et puis, on verra évidemment quelles sont les perspectives de développement et d'évolution de la compagnie. On commence tout de suite. Ligne directe, c'est parti.
Votre quotidien La Loupe, dans Ligne directe, sur la première.
Donc oui, donc un grand merci et bonjour à vous Olivier Tupaco, donc vous directeur du SMTI, de la SMTI, du SMTI, on dit de la SMTI j'imagine.
Oui, il y a un peu les deux formules, mais en tant que c'est SMTI, il n'y a pas de souci. C'est surtout, on est surtout connu pour le réseau rail, c'est ce que connaissent la plupart des gens.
Oui, mais société mixte des transports interurbains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une entreprise à la fois publique et privée?
Nous sommes un établissement public, donc établissement public administratif, donc qui a reçu la délégation par la Nouvelle-Calédonie de la gestion du transport interurbain. Donc on fait un petit peu Nouméa et la brousse en fait d'une commune à l'autre. C'est un petit peu notre cœur de métier.
Et vous êtes aussi présent dans les îles. Vous avez une ligne à Djéhou, hein, à Ifou.
Oui, une ligne à Djéhou. Et puis là aussi il y a du développement en perspective. On n'y est pas encore, mais ça fait partie des sujets qu'on a sur la table.
Et qu'est-ce que ça représente le réseau rail exactement? C'est combien de bus, combien de personnel et combien de destinations?
Alors aujourd'hui on est 27 personnes au rail, il y a à la fois des administratifs, des équipes d'exploitation, à la fois sur les équipes de contrôleurs qui surveillent la manière dont les services se déroulent, les réseaux de conduite, le développement sur la Grande Terre en particulier. Et puis on a aussi une équipe chargée de la maintenance, des bus, l'entretien, dont une partie est externalisée auprès d'une société privée, mais on a aussi une équipe interne de gestion, c'est 27 personnes. Et le rail, c'est l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 41 véhicules. À l'année, c'est 3 millions de kilomètres produits, hein, c'est 22 lignes. C'est 17 sociétés avec lesquelles on travaille pour la mise en œuvre des services de conduite. Et on va dire, c'est environ entre 70 et 80 chauffeurs qui habitent un petit peu sur l'ensemble des territoires, parce que le transport interurbain, c'est des départs de ligne depuis Nouméa, mais aussi beaucoup de départs de ligne depuis la brousse. Donc c'est aussi des gens qui habitent sur toute la Calédonie et qui, donc on va peut dire, ils travaillent un peu en étant à la maison.
Et donc vous êtes vraiment essentiel à la circulation finalement des gens à travers la Grande Terre et donc du coup aussi sur la ligne qui est à Lifou. Après 4 semaines d'arrêt, comment ça se passe la reprise? Vous faites vraiment face à un engouement, à un engorgement même de vos réseaux là?
Je pense qu'on était tous un peu patients parce que bon, on était tous au courant des risques avec le Covid, mais il y avait quand même la volonté et on se rend bien compte que le service public de transport interurbain, c'est un besoin quasi quotidien pour l'ensemble des Calédoniens. Et pendant tout ce mois de confinement, on avait régulièrement des appels pour savoir à quel moment, quand c'est qu'on allait rouler. Donc on le sentait et puis là, effectivement, il y a une effervescence après l'annonce de la levée partielle du déconfinement et jusqu'à la mise en œuvre des services. Alors ce week-end, de manière un peu adaptée à cause des intempéries, mais aujourd'hui, les véhicules sont très attendus et on a les usagers qui sont au rendez-vous.
Et c'est vrai qu'on a enchaîné, hein. Comme l'année dernière, juste après le confinement, déluge torrentiel, pluie diluvienne. Comment ça s'est passé samedi? Vous avez roulé quand même ou pas?
Alors samedi, non, finalement. Ce que je voulais quand même dire, c'est que un mois auparavant, quand il y a eu l'annonce du confinement, on avait le lundi pour rouler encore, c'était le dernier jour de roulage. En fait, on a mis en place quasiment, on a triplé le nombre de services qui étaient prévus normalement pour un lundi. Et là, je salue à la fois l'investissement des équipes internes, mais également des sociétés de transport avec qui on a réussi à ramener les gens à la maison, parce qu'à la gare de Nouméa, c'était un peu quasiment la panique, hein, puisqu'on avait beaucoup de gens qui attendaient. Les services habituels étaient saturés, pleins, À chaque fois qu'on rajoutait une ligne, parce qu'entre-temps, il faut d'abord mobiliser un véhicule, un chauffeur, il faut adapter le système de gestion billettique. À chaque fois qu'on avait un véhicule, un service qu'on rajoutait, par exemple, les grandes lignes Kumas, Kuebo ou Yangen, le bus était saturé au bout du quart d'heure. Et on a fait ça pendant toute la journée du lundi, jusqu'au dernier départ, 15h, et qui, eux, n'étaient pas saturés, puisque sur les 53 places, on était à 45 places. Et on s'est dit, ah, ça y est, on a ramené les gens à la maison. Mmh. Donc, du coup, on était un peu satisfait, un peu serein sur ce plan-là, parce qu'on sait que quand on est dans le service public, les gens comptent sur nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été posé. Et effectivement, on était censé repartir ce samedi, avec tout un planning qu'on avait bien calé. Et puis, patatras, moi, au samedi matin, quand j'ai vu la carte météo avec du rouge, ce qu'on voit rarement, en général, on a du
jaune,
alerte orange, jaune, orange, ben voilà, pardon, du rouge, c'était quasi exceptionnel. Et là, on s'est dit, stop, il y a un souci. Quoi. Et on a bien fait parce que pendant toute la journée, c'était un peu compliqué.
Donc, vous avez anticipé, vous n'avez pas eu de bus coincé quelque part
Non, non. Alors, effectivement, le soir, aux informations sur la télé, j'ai vu les gens ont dit, bon, certains se sont peut-être posé des questions parce qu'on a vu deux rails bloqués à la Wangi. Et en fait, c'était des rails qui partaient à vide. C'est-à-dire qu'on a annulé tous les services commerciaux. Et après, pour permettre des départs du nord le lendemain, on avait autoriser certains prestataires à partir avec les véhicules, mais eux tout seuls. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas le risque d'emmener des usagers avec nous. Donc il y a deux véhicules qui étaient un peu dans le flot de la circulation, mais tout s'est bien passé. Et donc on a tout bien repris, comme prévu, un planning adapté les dimanches.
Et donc là aujourd'hui, mardi, vous avez le réseau est repris, enfin ça a repris comme normalement. Il n'y a pas de queue dans les files d'attente, il ne faut pas se précipiter sur les billets.
Non, il n'y a pas plus de que ça. Ouais. Que les usagers, en fait, j'ai l'impression qu'ils reviennent tout doucement. Mais aujourd'hui, mardi, c'est le dernier jour d'un service adapté, puisque entre la reprise, alors théoriquement samedi, mais c'était dimanche, lundi et mardi, on a des services qui se remettent en place petit à petit. Il faut savoir que pendant ce mois de confinement, tous les véhicules étaient à Nouméa. On avait tout rapatrié, ce qui nous a permis de relancer un peu les opérations de maintenance, d'entretien diverses. Et donc, en fait, il nous faut quelques jours pour renvoyer des services un petit peu au lieu de départ des services habituels. Donc, aujourd'hui, mardi, dernier jour des services adaptés. Mmh. Et à partir de demain, mercredi, les usagers vont retrouver leurs habitudes avec les services qui partent à telle heure, de tel endroit, les horaires de passage. Donc, à partir de demain, ça sera comme avant.
Alors, comme avant ou presque, non, j'imagine qu'il y a quand même des mesures sanitaires qui vont perdurer encore pendant au moins cette semaine.
Alors ça, c'est la petite particularité, effectivement, ouais, pour cette semaine. Les mesures sanitaires, ben, nous, on les applique sans se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a installé à l'entrée de chaque véhicule un bocal avec du gel hydroalcoolique, hein, donc pour que les gens puissent se laver les mains à l'entrée. Ensuite, les consignes, c'est un siège vide entre chaque usager, donc pour avoir respecté la distanciation sociale. Et puis, le masque obligatoire, ça, c'est un impératif. On l'a répété, nous, dans les consignes, parce que c'est vrai que quand on est en brousse ou ailleurs, on n'y pense pas toujours. Donc, il faut quand même jouer le jeu et respecter la règle qui est imposée à tous. Et donc, surtout, le masque, c'est quelque chose où on insiste parce que les gens n'y pensent pas systématiquement.
Oui. Et justement, est-ce que les gens, de manière générale, jouent le jeu sur les mesures sanitaires, le gel hydroalcoolique, les masques? Ou est-ce qu'il faut, vous devez utiliser un petit peu des moyens de répression, ou les gens, systématiquement, ont conscience du bienfait des mesures? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Oui, vraiment, on a un public qui est bienveillant avec le réseau, les gens jouent bien le jeu. L'année dernière, quand on avait imposé le masque, effectivement, les gens arrivaient à la gare de Nouméa, certains d'entre eux avaient oublié leur masque. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on les renvoyait à un commerce un peu plus loin et on leur disait, bon, parce qu'ils avaient déjà acheté leur ticket, vous revenez dans 10 minutes, et on retardait un petit peu le départ du véhicule avant que les gens reviennent. Donc ils revenaient, comme il y a des commerces pour là, ils revenaient un petit peu au bout de 5 minutes. Donc ce qui nous permettait de jouer le meilleur compromis entre le respect des gestes barrières et puis la volonté des gens de traverser toute la Calédonie pour aller chez eux ou pour visiter la famille. Donc on a tenu compte un petit peu, mais en général, les gens aujourd'hui, depuis dimanche, les gens ont leur masque, il n'y a aucun souci signalé sur le réseau, tout le monde joue le jeu.
Mais c'est le masque, par exemple, il est obligatoire ou il est conseillé?
Ah, obligatoire.
Il est obligatoire. C'est-à-dire que oui, pas de masque, pas de transport, quoi.
Exactement. pas de masque, on choisit un autre mode de transport, je disais en rigolant, mais c'est obligatoire, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et on va rappeler à nos auditeurs d'en profiter pour poser leurs questions, 258-258, leurs questions, leurs remarques, ou aussi profiter du fait que vous, en tant que directeur du SMTI, vous êtes aussi, vous avez besoin finalement d'écouter un petit peu les doléances des gens et leur expliquer un petit peu pourquoi pas le processus de décision. Par exemple, on a une question nous qui est revenue assez régulièrement dans les coups de gueule, enfin en tout cas plusieurs fois, c'est pourquoi il n'y a pas d'arrêt à Pogoti, on connaît l'arrêt des Fraisiers à Païta, mais entre les deux, il n'y a rien. Pourquoi ?
Alors, à Pogoti, c'est quand même une zone qui est assez proche de l'agglomération, donc on va dire que c'est un secteur qui est plutôt desservi par les collègues du CMTU, du réseau Taneo, donc c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'arrêt sur Pogoti, en considérant que les gens pouvaient venir soit vers Païta ou soit vers la gare de Nouméa. Ça, c'est un constat. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des demandes qui sont récurrentes, notamment pour des gens qui partent de Brousse le vendredi soir, par exemple, et qui arrivent à Nouméa au moment où le réseau Taneo ne fonctionne plus. Donc, effectivement, pour ce public-là en particulier, qui arrive, parce qu'on a des véhicules qui arrivent à 9h, 10h, voire presque minuit, le vendredi très tard, voire le dimanche également. Donc là, on a une attention particulière. On a d'ailleurs rencontré, échangé avec les autorités de la province sud qui gèrent un peu la voie express, les gens de la commune de Dimbéal également. Donc on a fait des visites sur le terrain pour essayer de repérer des endroits qui satisfassent un peu à la fois les problématiques de dessert et les problématiques d'urbanisme, de sécurité routière. Donc on est en discussion, j'ai bon espoir que cette année 2020, on va pouvoir avancer. Mais la problématique des arrêts, c'est une problématique qui est générale. On a effectivement une demande autour de Pogoti, mais on a des demandes aussi particulières en Brousse. Et encore la semaine dernière, on échange avec des gens qui ne sont pas contents dans la manière dont on gère les arrêts. Mais il faut qu'on trouve des compromis entre des gens qui veulent aller à tel endroit et qui veulent que l'arrêt soit près de leur domicile, par exemple. Et puis des lignes qui font 7 heures, qui traversent 7 heures. Donc il faut juste imaginer que quand on fait 7 heures de route, si on s'arrête tous les 5 minutes, on va perdre un peu en qualité de service.
Ouais, il va falloir 2 jours pour aller à Kumak, quoi.
Je dis en rigolant, vous faites un Nouméa panier, c'est comme un Nouméa Tokyo avec Air Canada, quoi. On a quand même une durée, donc il faut qu'on trouve des bons compromis entre des gens qui veulent aller, qui ne sont pas loin, et puis les distances sont importantes.
Et pourquoi pas imaginer un réseau à 2 vitesses avec des rapides et des omnibus, des bus qui s'arrêtent vraiment partout, et vous savez, enfin je ne sais pas si vous y avez, pensé, quoi, mais.
Alors oui, gagner, parce qu'effectivement ça fait partie du. C'est un sujet qui est sur la table, si je peux dire cette expression, depuis des années, en fait, notamment sur la ligne Nouméa Kumak. On sait aujourd'hui qu'on n'a pas de service public hormis les services qui s'arrêtent un petit peu partout. Donc la volonté, c'est effectivement de mettre en place un réseau parallèle qui, lui, va ne faire qu'un ou deux arrêts entre Nouméa et Kumak, par exemple, et qui aura un niveau de service un petit peu au-dessus. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré l'ensemble du réseau. On a rajouté des dessertes, qui est le cas depuis janvier. On était à 17 lignes, on est passé à 22 lignes. Je disais tout à l'heure, on était à 2,7 millions de kilomètres produits, on passe à 3 millions. Donc on a une première phase, je considère qu'on a une première phase pour relever un peu le niveau de qualité de base d'un transport interurbain. Mais effectivement, la deuxième phase, c'est de pouvoir apporter ce petit plus, et notamment le service rapide, un service express entre Nouméa, Bouraï, Koné et Kumak, pour qu'on ait une autre alternative possible si on ne veut pas prendre la voiture. Et si on ne veut pas éventuellement prendre avion pour avoir la disponibilité d'un véhicule sur place.
Olivier Tupaco, je rappelle, vous êtes le directeur de la SMTI. Alors on a Francis qui nous a appelé pendant que vous répondiez à cette question. A priori, il n'avait pas assez d'unités, ça a coupé. Je vais juste vous prévenir que la prochaine réponse, s'il y a un auditeur qui appelle, on le prendra tout de suite. Je me permettrai de vous couper, d'accord? Comme ça, on prendra l'auditeur qui appelle, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de crédit d'unités, d'accord? On fait comme ça?
Oui,
tout à fait. Donc là, on essaye de rappeler Francis, parce que notre technicien a noté son numéro de mémoire, on essaie de le rappeler pour avoir potentiellement sa question. Depuis le janvier, vous avez ouvert une ligne qui traverse le bac de la OIM. Alors je vois le bac de la OIM, je vois vos bus. Comment vous faites?
En fait, c'est vrai que le réseau rail est installé depuis mars 2014, et au moment de l'arrivée du réseau rail, il existait une ligne privée qui faisait Puebo-Poindimier. Donc, du coup, cette ligne privée a continué à fonctionner pendant que le rail était en place. Mais, entre-temps, cette ligne s'est arrêtée. Et nous, on n'avait pas le, on va dire, on n'avait pas le véhicule pour traverser par tout temps. Aujourd'hui, on a des véhicules de 53 places qui traversent pendant, on va dire, des marées hautes, mais en cas de marée, de forte marée basse, fort coefficient marée basse, le véhicule qu'on avait ne pouvait pas passer. Donc, ce qui fait que l'année dernière, on a acheté deux véhicules de taille plus réduite, donc c'est des 43 places au lieu des 53 qu'on avait depuis 7 ans. Et ces deux véhicules, donc on a un véhicule qui fait la ligne Pueblo-Poitimé et qui peut passer par tout temps. Donc tous les jours de la semaine, il y a un aller-retour et je sais que c'est une ligne qui fait vraiment plaisir aux gens du coin là-haut parce que historiquement, les gens de Pueblo, ils allaient à Poitimé pour faire leurs courses ou pour aller visiter le médecin. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on se satisfait tous de voir un rail qui, enfin, maille complètement l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On avait un réseau qui s'arrêtait à Panier, tribu de Panier, côté de Yengen, mais de l'autre côté du Bac, et puis une ligne qui s'arrêtait au village de Yengen. Maintenant, on n'a plus cette rupture de service, on a un service qui est complètement maillé sur l'ensemble du territoire.
Je vous arrête comme promis, comme on a dit, il y a Francis qui est au téléphone, on va écouter tout de suite sa question. Bonjour Francis, bienvenue à vous, oui, on vous écoute.
Bonjour, monsieur Stupakos, c'était pour un renseignement. Oui. Il faut savoir qu'il y aura, quoi, il n'y a pas d'arrêt de bus au Cherchen de Koné. Parce que tous les matins, quand je passe, je vois l'histoire de l'hôpital. Les malades, parfois, ils viennent en béquille, ils viennent faire 200 mètres pour prendre l'arrêt de bus qui n'a pas envoyé.
Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a un arrêt qui est à l'entrée de la province Nord. Donc on a eu l'occasion de visiter il y a un mois avec les collègues de la province Nord l'ensemble du périmètre. Donc il est envisagé de mettre en place un arrêt un peu plus loin, donc plus proche de l'hôtel de la province Nord, notamment parce qu'aujourd'hui, on a rajouté des dessertes qui traversent la Konitiwaka. Donc c'est un mouvement qu'on va accompagner. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas fait encore. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs endroits où on a des demandes particulières, notamment pour les personnes handicapées, mais ça fait partie de volonté d'aller plus proche.
Merci, M. Topaco.
Voilà, merci.
C'est bon, Francis, on a répondu à votre question?
Oui, merci.
Bon, bah nickel, merci beaucoup. N'hésitez pas, le 258-258 est à votre disposition. Allez-y, on vous prendra rapidement pour que vous puissiez directement poser votre question. On va revenir un petit peu sur les innovations. Là, on parlait du bac de la OIM, etc. On a parlé des arrêts. On a vu que ce n'était pas forcément facile de créer un arrêt comme ça, parce que juste à la demande, on a un auditeur? Eh bien, on a déjà quelqu'un. Alors,
c'est un vrai sujet, les arrêts.
Oui, c'est ça. La première, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour. Je veux revenir sur la limitation des vitesses pour les transports.
Ok, oui. Allez-y.
Limitation des vitesses.
Oui, on vous écoute, monsieur, vous êtes à l'antenne. Par contre, juste, si vous êtes au volant, garez-vous. Il y a un peu de bruit autour de vous, ça ne va pas être très agréable, ni pour vous, ni pour nous. Allez-y, on vous écoute.
Je veux revenir sur la limitation des vitesses pour les bus.
Eh bien, allez-y, posez votre question, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô ?
Allô ?
Bon, bah, il voulait parler de la limitation des bus, des transports. Enfin, voilà, il n'a pas posé vraiment sa question. Vous avez quelque chose à dire par rapport à la vitesse des bus, non ?
Bon, ce que je peux dire, c'est que les bus sont bridés. Hein, ils sont bridés à 90 km/h. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Alors, pendant quelques années, ce n'était pas le cas. Ils étaient bridés à 110. Donc, on avait pas mal d'observations. Aujourd'hui, les bus sont bridés. Donc, c'est des bus qui, aujourd'hui, n'ont pas de raison d'aller au-delà de 90 km/h. Après, c'est vrai que, par exemple, sur la voie express, il y a un véhicule qui, c'est comme tout le monde, qui dépasse un peu, qui pousse. On a des moyens on a parfois des signalements, on a des moyens de contrôler, et là, on prend les mesures qu'il faut.
On va revenir sur, justement, la conduite des bus. On a un autre auditeur qui est avec nous. La première, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame. On vous écoute.
Moi, je voudrais savoir, on avait pour projet des gares routières dans certains endroits, et ce projet, il en est où ?
Oui, merci. Alors, c'est vrai que les gares routières, pour moi, c'est la même problématique que les arrêts, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'ensemble des infrastructures. On a la gare routière, enfin, là, on est installé sur Nouméa, et qui est aujourd'hui une gare provisoire. On a des discussions aujourd'hui avec la province, avec la ville de Nouméa, pour voir quelle peut être l'implantation définitive. Aujourd'hui, c'est une installation provisoire. En attendant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer les conditions d'accueil. On a beaucoup de signalements sur les abris, on a rajouté des abris, les toilettes. On a une gare, enfin, sur Bouraille aussi, on a une gare aussi qui est importante. Alors là aussi, on a des conditions d'accueil qui sont on va dire minimales, hein. Elles méritent d'être améliorées. Mm-hmm. On a une autre gare sur Coumac. Aujourd'hui, l'aménagement de ces équipements passe par une concertation avec les communes. Et c'est une concertation qu'on a commencé à mener, mais qu'il faut pousser parce qu'on a des contraintes d'urbanisme, on a une réflexion plus générale du réseau. Il faut qu'on discute avec les communes en particulier, mais en attendant, on essaie d'améliorer les petits équipements, les conditions d'accueil.
C'est bon, madame ?
Il en manque une sur Pagnimier, franchement.
Oui. Oui, effectivement. Alors, sur Pointe-Dimier, on a un abri, un accueil qui existe. Et là aussi, c'est un équipement qu'il faut qu'on améliore aussi en discussion avec la commune. Ce qui est important pour nous, les gars, c'est qu'on met en place, on veut multiplier les dessertes demain et on ne s'interdit pas de mettre en place des zones de correspondance. Et c'est vrai que les correspondances entre les lignes pour que les gens puissent... avoir plus de choix de déplacement passe par l'aménagement des gares. Et c'est vrai que c'est un petit peu le maillon faible aujourd'hui des réseaux rails sur l'ensemble du territoire.
D'accord, je vous remercie.
Merci madame. Bonne journée. C'est vrai que les arrêts, c'est un vrai sujet. Il y a à peu près un an, on avait fait une émission avec les personnes qui gèrent le réseau, la SMTU, le réseau Taenéo notamment, et ils disaient que les arrêts, tout le monde en veut un près de chez lui, mais pas juste à côté pour pas subir les nuisances qui sont liées au bruit, à la pollution et à l'afflux massif de personnes. Est-ce que c'est vrai pour le réseau Carrail également? Vous avez la même contrainte?
Monsieur Toubac. Multiplié par 10 pratiquement, parce qu'en fait, on a des grandes distances quand même. Hein. Par exemple, quand on veut traverser la tribu d'Oujo, nous, on a un arrêt. Aujourd'hui, les cars s'arrêtent à plusieurs arrêts parce que les gens se connaissent. Et ça, on veut structurer un petit peu. On ne peut pas laisser faire, on veut dire, tourner n'importe quoi, ne serait-ce pour des conditions de qualité d'exploitation, mais aussi pour des raisons de sécurité. En fait, pendant longtemps, les bus, les trousseurs connaissent un petit peu les villages qu'ils traversent, donc ils s'arrêtent un petit peu tout le long du réseau. Mais les gens eux-mêmes, au bout d'un moment, s'impatientent. Vous savez, moi, j'imagine le gars qui fait un Puebo Nouméa et qui n'est pas encore arrivé à la fois, il s'est arrêté 15 fois entre Nouméa et Tantouta. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ce compromis qu'il faut qu'on trouve, mais en fait, c'est un débat qu'on a tardé à porter sur la place publique, et aujourd'hui, on veut le porter parce que la solution, elle ne va pas venir que de SMTI, elle va venir aussi avec les gens. Les gens le comprennent également qu'il faut qu'on structure. Et on a des outils qu'on va mettre en place, et notamment, ça va nous imposer, et ça va être obligatoire, si on veut développer les services demain, on va être obligé de structurer les arrêts, et à la limite, au-delà des arrêts, c'est les temps de passage des véhicules. Il faut vraiment qu'on les bloque.
On a un auditeur, excusez-moi, monsieur Toupaco, on a un auditeur au téléphone qui patiente. Bonjour, monsieur, ou madame, d'ailleurs. Bienvenue à vous.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, je voulais savoir si Rail avait l'intention de mettre en place une ligne sur Marais.
Eh ben voilà une question concrète et précise, monsieur Toubacco.
Oui. Tout à fait. Alors, la décision n'est pas prise. Aujourd'hui, ça fait partie des options qui sont sur la table. Hein. Passez-moi l'expression à nouveau. Voilà, donc les gens de Marais veulent qu'il y ait une desserte. Aujourd'hui, la décision n'est pas prise. En tout cas, dans les scénarios de développement du réseau, c'est des choses qui sont possibles, mais encore actées aujourd'hui.
Vous êtes encore là, monsieur ?
Oui, oui, parce que je constate que sur l'Ifou, la ligne, elle est déjà en place depuis un certain nombre d'années déjà. Et puis, bon, je ne sais pas si il y a une ligne, mais on est un peu laissé pour compte. Hein. Enfin, excusez-moi de cela, mais voilà.
Oui. Alors, en tout cas, on est très sollicité un petit peu partout, que ce soit sur le Marais, effectivement, parce que les gens de Marais voient qu'il n'y a pas de rail qui circule. Après, avant que le rail arrive, il y a des réseaux privés. Bon, le niveau de service, peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il y a besoin de faire avancer les choses. Mais pareil, sur l'IFOU, des gens demandent à ce que le réseau rail change d'itinéraire, puisqu'on a des zones qui ne sont pas desservies. Voilà, ça, c'est des décisions politiques, si je puis dire. Les techniciens, nous, on peut faire des propositions pour améliorer le service public, mais les décisions, elles vont venir à un moment donné... de nos élus.
Parce qu'aujourd'hui, je me permets, hein, vous avez encore une question, monsieur ? Vous êtes encore là ou...
Non, merci beaucoup, merci.
Bon. Merci beaucoup. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui le service de rail à travers le pays, et particulièrement la ligne de l'IFOU ? Est-ce que ça serait rentable, ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait être subventionné ?
Alors aujourd'hui, nous sommes un établissement public administratif, c'est comme d'autres établissements publics, c'est-à-dire qu'on ne peut fonctionner que si on a un apport de la collectivité publique. Donc partant de là, on a des lignes qui sont rentables, des lignes qui, et d'autres qui le sont moins, mais après on joue la péréquation entre les lignes, on arrive à les compenser, et parce qu'on estime que le service public doit aller jusque un peu loin. Alors, moi je m'en fais une petite fierté, mais on passe plusieurs fois par semaine à Thiabet, par exemple. Donc c'est des endroits qui sont reculés, mais sans l'intervention du service public, les gens n'auraient pas possibilité de voyager de manière libre. Donc globalement, on ne peut pas parler de rentabilité puisqu'on a dans nos recettes des subventions, des participations, une taxe affectée. Donc ça fait partie du service public. On doit aller au-delà et la question de la rentabilité ne se pose pas. Elle se pose par exemple par rapport à d'autres données sur le développement économique. On voit bien par exemple sur la côte Est, on a des commerces qui se développent, on a des marchés qui se développent, on a des gens qui vont à l'école grâce au rail, on a des gens qui vont travailler grâce au rail. Donc c'est en termes d'impact social qu'on peut trouver une compensation à ce qui est strictement financier. Aujourd'hui, sans le rail, je ne sais pas comment ça peut se passer. Donc je pense que ça vaut le coup que collectivement il y ait cette petite aide. Parce que derrière, on a des apports, on a un impact social, sociétal qui est énorme.
Bien sûr. On a quelqu'un au téléphone. La première, bonjour. On vous écoute. D'ailleurs, il y a du monde en fait au standard. Hein, ça...
Bon, tant mieux.
On vous écoute, monsieur ou madame.
Allô.
Oui, c'est à vous, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vous appelle au sujet de Calrail.
Oui.
Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un passage au Médipôle en allant du sud, en allant du nord? Parce que le cas n'est pas juste devant.
Oui.
On a déjà un peu répondu à cette question.
Il faut aller en ville là-bas, puis tu redescends là-bas, tu reprends un car à Paneo pour revenir. Est-ce qu'il n'est pas possible de passer par en allant?
Alors, tout à fait, monsieur. C'est... Oui. Ouais. Alors, oui, monsieur. Merci pour la question. C'est la même question un peu que ce que disait l'auditeur avant sur le centre hospitalier nord. Pardon. Alors, c'est vrai que cet arrêt du Médipôle, elle avait fait l'objet d'une discussion qui était relativement avancée il y a 4-5 ans. Et en fait, on s'est retrouvé un petit peu bloqué, notamment par des problématiques d'aménagement. Et le rail, on n'a pas pu faire aboutir cette demande. Mais cette demande, elle existe. Je pense que parmi l'ensemble des points sur les arrêts, ça fait partie des premiers points qui vont être satisfaits parce qu'on se rend bien compte que des gens qui viennent au Médipôle, c'est des gens qui ont des besoins particuliers, qui ont... c'est vraiment la première demande pour laquelle il faut qu'on trouve une solution. Donc dans toute cette problématique des arrêts, des gares, l'arrêt du Médipôle, c'est le point qui est au-dessus de la pile.
Voilà, merci monsieur, j'espère qu'on aura répondu à votre question. Alors on a beaucoup parlé des arrêts, je voudrais qu'on revienne quand même sur la sécurité. On a tous déjà vu quand on roule un petit peu, alors on va pas incriminer tous les chauffeurs, mais des fois on a tous vu j'imagine des fois des bus doubler un peu dangereusement, rouler trop vite, etc. Quelle est votre politique de sévérité par rapport de la conduite dangereuse de la part de vos chauffeurs?
Alors, on a des formations. Bon, les gens, ils ont toutes les capacités réglementaires. Hein. Ensuite, on met en place des formations quand un chauffeur est habilité à conduire un véhicule rail. Des formations à la fois sur les outils de gestion, mais également une sensibilisation sur les problématiques de sécurité. On a eu l'occasion l'année dernière de faire 3 réunions avec les collègues de la direction du travail. Il y a une alerte sur les problématiques de fatigue, d'alcool ou d'autres. Et après, une fois que les chauffeurs sont habilités, qu'ils prennent les véhicules, on a une surveillance, on a un régulateur du réseau. Et si on identifie, on va dire, des erreurs ou un petit peu de laisser-aller de la part des chauffeurs, c'est un peu comme partout, eh bien, on prend les sanctions qu'il faut. Et je peux vous assurer que les sanctions, elles font mal. Parce que je considère, ce que je dis toujours de manière un peu simpliste, c'est qu'on... On ne transporte pas des pommes de terre, mais on transporte des gens, des familles. Donc là-dessus, on a une responsabilité qui est énorme, tout le monde le sait. Et donc, on a une exigence, une rigueur dans ce qu'on demande aux transporteurs, aux chauffeurs.
Merci de cette réponse. Alors, vous nous l'avez dit, hein, les mesures sanitaires imposent qu'en ce moment, vous ayez finalement vos bus un passager sur deux. On est déjà revenu un petit peu sur les normes de rentabilité. Mais là, concrètement, est-ce que la société pourrait fonctionner avec des gestes barrières sur le long terme? Comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous naviguez à perte ou pas?
Clairement, quand on fonctionne avec une jauge à 30 usagers par véhicule, on est à perte. Donc, on considère qu'on est un service public, donc on le fait, on est très attendu. Ce qu'on espère, c'est que ces gestes barrières vont être levés au bout d'une semaine pour nous permettre de retrouver un fonctionnement économique plus ordinaire. D'autant que là, on est à la dernière semaine de vacances. Les semaines de vacances, en général, c'est des semaines où le rail est très utilisé puisque les gens en profitent pour aller voir la famille et on a une fréquentation qui est un peu plus importante qu'à l'habitude. Et en plus, à la fin des semaines de vacances, le dernier week-end qui précède la rentrée, là aussi, on a un taux de remplissage qui nous amène des recettes intéressantes. Et là, en fait, on se rend compte que ce ne sera pas le cas. Et donc, nous, sur le plan l'exploitation des équilibres, on sait où on va. Mais sur le terrain, on sait que les usagers vont devoir trouver d'autres palliatifs pour se déplacer, revenir pas loin des centres scolaires.
On a Apollonie au téléphone. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu l'appel de l'auditeur de Marais. Et c'est juste pour demander dans les perspectives d'avenir, oui. Est-ce que le rail ou les transports en commun vont faire payer les billets par Internet, comme on le fait pour le bateau Betticho et pour Air Calédonie? Alors, l'autre chose aussi, dans les perspectives d'avenir, parce que la population va augmenter dans les 2, 5, 10 ans, est-ce que dans la politique des transports du pays pour MC 2025, c'est peut-être pas pour M. Tupaco, mais c'est une question que je pose. Merci.
Je n'ai pas très bien compris.
Alors ouais, moi non plus, Apollonie, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît, en tout cas la deuxième.
Dans la politique générale des transports. Déjà, est-ce qu'il y a une politique générale des transports pour la Nouvelle-Calédonie, pour concilier et le transport maritime, et le transport terrestre, et le transport aérien? Voilà.
Est-ce qu'il existe une fédération, un syndicat qui regroupe finalement tous les acteurs de transport?
La politique générale des transports.
Monsieur Tupaco.
Oui, alors il y a eu, il y a plus d'une dizaine d'années, un forum sur le transport et qui a donné un schéma NC 2025 dans lequel il y a une organisation stratégique pour l'ensemble des opérateurs de transport. C'est un sujet qui est porté aujourd'hui par les élus. On entend dans les débats politiques, notamment au Congrès, la création de tel établissement, de tel fonds qui permet de chapeauter et d'harmoniser l'ensemble des problématiques. Donc pour répondre à cette seconde question, oui, il y a la volonté d'harmoniser et de répondre au mieux avec l'ensemble des opérateurs aux problématiques, aux souhaits de déplacement de l'ensemble des Calédoniens, que ce soit sur le domaine terrestre, maritime ou aérien. Ça existe. Sur la première question, vous parlez des achats par Internet. Alors, aujourd'hui, on a des projets d'investissement qu'on doit lancer d'ailleurs cette année, qui sont très importants. Alors, je peux passer rapidement sur le renouvellement de la flotte des véhicules, parce qu'aujourd'hui, les véhicules ont 7 ans. On est à 500 000 km en moyenne, donc ça veut dire qu'il faut commencer à regarder les routes calédoniennes en particulier. Ce qu'on met en place de suite, parce qu'on va aussi prévoir le renouvellement du système de gestion, c'est tout l'outil de toute la billettique, l'assistance à l'exploitation, et c'est cet outil-là qui va nous permettre demain d'acheter par Internet. Pour l'instant, on ne peut pas le faire avec les outils qu'on a aujourd'hui, mais on a prévu de lancer l'appel d'offres dès cette année pour changer l'ensemble des systèmes. Mais on ne va pas attendre la refonte globale de ces systèmes. Ce qu'on va mettre en place, on va dire d'ici 15 jours, 3 semaines, maximum un mois, c'est l'achat des titres de transport par téléphone. Alors ça nous oblige à avancer en faisant très attention à ne pas, parce que le système informatique aujourd'hui il est ce qu'il est, à avancer pour que les gens puissent acheter à distance, ne plus être obligés de venir à Nouméa. Ça c'est une première chose. C'est pas par Internet, mais c'est ça par téléphone. C'est déjà un petit plus. Et puis on veut mettre en place aussi un système de réservation. C'est vrai, moi je pense souvent à l'exemple des gens de Wayaguet, par exemple. Alors je salue mes amis de Wayaguet, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils vont payer le taxi pour aller à Yengen ou aller à Koumak, par exemple. Le taxi, ça va leur coûter 10, 15 ou peut-être 20 000 francs. Ils vont attendre le car au bord de la route. Finalement, le car, il va passer, il est plein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont à nouveau repayer un autre taxi, retour à la maison, et puis tout ça pour rien. Ce qu'on veut mettre en place, c'est le système de réservation. Au moins que la personne, elle appelle, elle bloque sa place, elle paye par Internet, et ensuite, quand elle va venir, elle paye son taxi, mais elle est sûre d'avoir sa place. Donc, Internet, pas encore, mais aujourd'hui, achat par téléphone, c'est quelque chose qu'on peut faire de suite, et on veut le faire parce qu'on sait que, avec les soucis qu'on a aujourd'hui, on a énormément de contraintes portées par des gens qui sont éloignés des centres, et notamment qui ont besoin du transport en commun.
On n'a pas conscience, hein, nous, depuis Nouméa, finalement, de la problématique de ces gens qui sont reculés. Là, l'exemple que vous venez de prendre, il est quand même assez parlant. Donc là, ça va être mis en place quand, ces réservations par téléphone, pour permettre à ces gens de ne pas rater le bus?
Alors,
en tout cas,
on est en train de finaliser l'outil. Aujourd'hui, on en parlait encore ce matin avant l'émission. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse réserver sa place. Et quand la personne vient à son endroit d'hôtel, elle voit le véhicule arriver, elle sait que sa place est bloquée. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens peuvent attendre toute la journée au bord de la route et voir passer les véhicules pleins. Alors, surtout en ce moment, quand on a une jauge à 30 places, ils vont voir passer les véhicules toute la journée et finalement, ils reviennent à la maison et puis on revient le lendemain en espérant que demain, on a un peu plus de chance. C'est comme ça que ça se passe quand on est en bourse.
Puis on imagine les budgets. Enfin, si vous dites que le taxi coûte 10 à 15 000 francs, bon, j'imagine que c'est des taxis partagés, mais quand même, quoi, ça fait toujours un budget, une perte de temps, etc. On a Christian au téléphone.
Oui,
bonjour Christian, bienvenue.
Pardon. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Paco. Bonjour, oui. David. Concernant les gares routières, pourquoi ne pas avoir récupéré la gare routière de Moravel là? Parce que vu que la plupart des usagers viennent des quartiers nord, voilà.
Oui.
Et comment je veux dire, après voilà, je viens d'écouter aussi pour les tribus retirées là. Pourquoi ne pas avoir fait des navettes comme ça, les gens ils sont sûrs qu'ils ont bien leur place dans le car et puis avec les horaires précis quoi. Dernière question, c'est concernant les colis. Vous savez, avant, avec les anciens trafics, on pouvait récupérer ou déposer des colis pour la brousse. Est-ce que ça va être remis ou c'est comment, par mesure d'hygiène ou un truc comme ça? Ça a été définitivement aboli. Merci, bonne journée à vous.
Donc, trois questions de la part de notre auditeur.
Oui,
Toupaco.
Oui. Alors, l'histoire des navettes, en fait, c'est une coordination de la compétence transport entre nous, intérieur urbain, et les communes. C'est-à-dire qu'on a des endroits, de certaines communes, où les communes ont mis en place des navettes, on va dire des navettes de rabattement vers l'axe principal, pour que les gens puissent récupérer leur rail. Donc ça, c'est une chose, mais on va dire que ce n'est pas le rail, ce n'est pas le réseau interurbain, c'est plus le réseau communal à mettre en place ce petit relais en fait en interne, parce que c'est des navettes de rabattement pour partir ou c'est des navettes qui peuvent servir à ramener les gens chez eux dans l'autre sens. Ça solutionne peut-être d'un point de vue économique les coûts pour cette navette, pour ce transport vers le réseau rail. Après, la question de la réservation, je vous ai exposé ce qu'on essaie de mettre en place. Pour ce qui concerne la gare de Moravel, en fait, bon, ça c'est une décision un peu politique, hein, l'implantation de la gare. J'expliquais tout à l'heure qu'on discutait avec les autorités de la ville de Nouméa, voire d'autres communes, parce que, en fait, effectivement, l'objectif c'est d'avoir un arrêt dans le Grand Nouméa. Et les gens viennent à Nouméa, viennent dans le Grand Nouméa, voilà. Donc, si c'est peut-être pas à la Patch, ça peut être à Moravel ou ailleurs, la question elle est posée aux élus. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est d'identifier le lieu qui évite le lieu où la majorité des usagers accèdent vers leurs besoins. Donc, soit les gens vont à domicile, dans ce cas-là, effectivement, c'est peut-être en périphérie, soit ils viennent faire leurs courses dans la ville. Donc, c'est ces deux aspects. La question est posée, voilà. Donc, gare de Moravel ou un autre, c'est possible.
Mmh. Oui, donc d'avoir plus d'arrêts sur le Grand Nouméa. Et il y avait une troisième question en rapport au... Pardon ?
C'était les colis, j'avais noté.
Oui, eh bien, allez-y.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, les transporteurs privés géraient, ils avaient un service de fret, on va dire. Et effectivement, même si on ne prenait pas le véhicule, on pouvait déposer un colis au car et on faisait payer un prix modique pour que le car emmène son colis à l'autre bout de la Calédonie. Nous, on est un établissement public, on a des compétences qui sont définies réglementairement, et la question du fret, c'est une question qui n'est pas claire, en tout cas, qui, dans, on a la liste qui n'est pas claire dans nos compétences. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens déposent, puisqu'en fait, quand on va à une gare du Koumas, par exemple, bon, l'usager normal, lui, dépose son sac, ce qu'on appelle le bagage accompagné, et puis bon, dans le véhicule. Parfois, d'autres gens viennent déposer le colis et puis la famille récupère. Ça, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qu'on veut restreindre, qu'on veut limiter. Il y a des services qui sont là pour gérer du fret, mais nous, on ne gère pas le fret. Nous, on ne gère que le bagage qui est accompagné du voyageur. Et ça, c'est quelque chose qu'on limite et qu'on contrôle et qu'on veut réduire.
Pour quelle raison ? Parce que s'il y a de la place dans la soute, pourquoi refuser de mettre une glacière ou autre ?
Bah, c'est pas du tout dans nos compétences de gérer du fret. Et puis, y a des sociétés qui font... Enfin, voilà, nous, on ne fait pas du fret. Il y a des sociétés qui font ça très bien. Donc aujourd'hui, on le fait pas. Bon, ça fait partie c'est en tout cas une volonté de le faire plus tard, de faire du fret. Mais aujourd'hui, on peut pas le faire dans le règlement terme.
J'imagine que pour ce qui est produit frais, il y a des normes d'hygiène, puis peut-être de pas marcher sur les plates-bandes de certains organismes qui font ça. Mais justement, quand on parle de ça, dans les îles, il y a beaucoup de petits transporteurs qui ont fait de leur activité le transport de personnes. Si on devait mettre en place, par exemple, à Marais, une ligne de bus, est-ce que ça nuirait pas finalement à cette économie qui s'est mise en place là-bas? Est-ce que ça fait partie des discussions? Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore de ligne de bus, par exemple, à Marais ou à l'île des Pins ou à Ouvéa, par exemple?
En tout cas, cette discussion-là, elle a été tenue à l'époque à l'IFU, parce qu'à l'IFU, quand on a mis en place le réseau, on avait prévu 3 rotations à la journée. En fait, finalement, il y a eu des discussions, on a supprimé la rotation méridienne, c'est-à-dire que la rotation du matin et du soir. Aujourd'hui, les usagers reviennent nous voir pour nous dire, finalement, on veut remettre en place la rotation de milieu de journée. Bon, ben, on sait bien que quand on met en place une rotation, on bouge un peu des lignes, donc... C'est clair, c'est une discussion politique avec d'autres acteurs. Nous, on intervient en complémentarité. En tout cas, on vient apporter un service là où il n'y en a pas. Donc, c'est clair que si demain, les discussions devaient évoluer sur un nouveau site, il va se faire, bien évidemment, avec les acteurs qui existent sur la place.
On a Manu au téléphone. Ce sera certainement notre dernier appel. Bonjour, Manu.
Oui, bonjour. C'est Manuka au téléphone.
Ah, Manuka, pardon.
Il n'y a pas de mal. Alors, j'ai juste une question, voilà. Je voudrais d'abord féliciter le monsieur, excusez-moi, j'ai du mal à retenir son nom.
Monsieur Tupaco.
Tamouna, c'est ça ?
Tupaco.
Oui, voilà. Et donc, pardon. Voilà, moi, je le félicite parce que il est dans le transport, c'est un emplacement stratégique pour qu'une société soit viable. On est bien d'accord ? Et c'était juste pour relever une chose qu'il avait dit, il avait parlé justement au niveau de la justification des subventions publiques, l'impact social que ça pouvait avoir, et je suis entièrement d'accord. Oui, hein. De toute façon, on ne peut pas construire une société sans avoir les moyens de faire dépasser les peuples, ça c'est clair. C'est pour ça que ma question, elle est simple. Pourquoi depuis ce temps, en sachant que le transport c'est le nerf d'un pays, pourquoi les subventions publiques ne s'accordent pas telles à faire de façon à faire baisser les énergies, tout simplement ? C'est une question d'énergie. Comme les agriculteurs, ils ont des prix sur le carburant, eh ben pourquoi ne pas baisser carrément le carburant pour rail ? Comme ça, après, on ne va plus se retrouver, ou pour les taxis qui rendent service à la communauté. Comme ça, on ne se retrouvera plus avec des transports à 15 000 balles. 15 000, c'est 1 500 euros. Non, c'est non. 150 euros. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui. 150 euros en France, on vit 3 mois avec ça. Donc voilà, la question, elle est posée. Pourquoi on ne baisse pas carrément le prix du carburant ? Parce que c'est ça le nerf du transport. Et le transport, c'est le nerf de la vie en société.
On a compris, non pas votre question, mais votre plaidoyer, monsieur. Mais si monsieur Tupaco veut répondre.
Non, mais c'est une question.
Non, mais tout à fait.
Lui, il est chef d'entreprise. Excusez-moi du terme, il a quand même le cul entre deux chaises. Il ne sait pas s'il est entrepreneur ou s'il est un acteur social.
Alors, on va laisser la parole.
Il faut trancher.
Oui.
Mais c'est le prix du carburant et les transports, ils vont dégringoler. Je ne parle pas du transport, la quantité de transport. Je parle du prix du transport. Il va dégringoler et ça va permettre au petit peuple de se déplacer.
On va laisser monsieur Tupaco répondre, monsieur.
Oui. Merci.
Merci, monsieur.
Merci. Vous savez, monsieur, l'analyse du développement du territoire, hein, si je remonte un petit peu, c'est que souvent, d'abord, on construit des maisons, on construit un magasin. Et après, on se pose la question du comment on fait pour venir au magasin, comment on fait pour se déplacer. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, la problématique de l'organisation du transport sur le territoire, ça a toujours été vu après les constructions. Le rail, c'est pareil, c'est-à-dire que le rail, pendant longtemps, c'était des services privés, ça fonctionnait coup-ci, coup-ça. Vous savez, le rail, avant, hein, quand le chauffeur il allait partir de Puebo, il n'y avait que trois usagers, bah, finalement, il ne partait pas parce qu'il va se dire non, il ne rentre pas dans ses frais. Aujourd'hui, le rail passe quoi qu'il arrive. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des endroits en bus. Ah, quand les gens discutent assis sous un manguier, ils voient passer le rail, ils regardent leur montre. Ah ben tiens, une heure déjà. Et c'est une réalité. Et moi, je m'en félicite de voir que finalement, le rail est rentré dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est peut-être l'enjeu demain du rail, il y a des gens qui ont des voitures et qui décident, je vais à Nouméa, mais je prends le rail, je ne veux pas conduire. Aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle, une clientèle qui est motorisée, mais qui décide de prendre le rail. Aujourd'hui, le rail, dans les aménagements, c'est des tarifications spécifiques pour des publics spécifiques. Demain, des boursiers, des scolaires, demain, des gens qui vont prendre le rail pour aller à un centre de formation, pour aller faire une insertion. Aujourd'hui, on travaille avec les provinces, avec des bons transports pour les gens qui vont rendez-vous médicaux. On a un véritable service public. Je suis entrepreneur parce qu'il faut regarder un petit peu les budgets. On est aussi sollicité une exigence qui nous est imposée par les élus, notamment dans le contexte actuel. Donc, on regarde les budgets, mais je sais que le rail, c'est un service public, quelque chose qui a un impact social qui est énorme et qui n'a pas fini d'agir encore sur l'ensemble de la société.
Ouais, ne pas considérer le réseau rail comme la cinquième roue du carrosse pour voyager parce que ça coûte pas cher et c'est pratique, mais c'est aussi un super moyen de voyager. Franchement, je le conseille personnellement à tout le monde de prendre le bus pour aller jusqu'à Puebo, se laisser porter par ces bus qui sont mais vraiment confortables, à la rencontre des gens, se laisser bercer, regarder les paysages, de la musique dans les oreilles. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un transport qui est également très agréable et qui est parfait pour découvrir le pays le temps d'un week-end et aussi bien en tourisme finalement, quoi.
En général, on découvre le rail parce qu'un jour, on a un problème de voiture. Moi, c'est le cas, je me souviens qu'un monsieur de Moïda qui tourne dans son jardin et qui finalement, il m'a raconté, je vais le dire sur les clips, il me raconte son histoire. Il voit passer un rail, il me dit, eh ben voilà, comment je vais récupérer mon voiture en Nouméa. Du coup, il demande à son voisin de le déposer à Bourail parce qu'il se souvient d'avoir vu les cars à Bourail. Et puis après, je discute avec lui, là, c'était presque une surprise. Il me dit, mais c'est confortable les rails, on est bien installé, moi j'ai dormi, c'était super confortable. C'est comme ça qu'on découvre le rail. Mais demain, ça ne sera pas par défaut, ça sera par choix pour choisir un arrêt.
Et puis l'ambiance qui règne à bord, on rencontre plein de gens. Enfin, c'est vraiment un week-end de tour de Calédonie en rail, c'est à faire. Je le conseille.
Et ça fait partie, on nous demande, donc ça fait partie des sujets, on remet en place des outils qui permettent aux gens demain de faire le tour de la Calédonie avec le rail.
Eh ben voilà. Merci beaucoup, Olivier Tupaco, directeur du SMTI, la Société Mixte des Transports Interurbains, qui gère notamment le réseau rail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir fait voyager.
C'est moi. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Et voilà, ligne directe, première partie, c'est terminé. Un grand merci à Samuel Opetaï qui était à la réalisation de cette émission. Merci à tous les auditeurs qui ont fait vivre cette émission, qui nous ont appelés et posé pour poser leurs questions.
Votre quotidien La Loupe, dans Ligne Directe, de 8h à 9h sur La Première.